désespoir de désespoir. C'est qu'il se passe. C'est quoi cette température-là?
Hey, mais on peut pas chialer. On a été gâtés en petit pépère dans la semaine.
Laisse-moi mon petit temps de chiolage le matin dans l'open mic.
Ça te fait du bien, hein?
Vous essayez tout le temps de me l'enlever.
C'est bien, je sais pas si on veut l'enlever ou l'atténuer ou... En fait, sais-tu quoi? Je vais être honnête avec toi.
Ouais.
Moi, ça ne dérange pas que tu chiales.
Be honest.
C'est juste que ça sert à rien, Yann.
T'as raison. Dame nature ne nous écoutera pas.
Non, ça changera strictement rien à part te rendre malheureux pour rien.
Ouais, mais ce matin, j'ai regardé dehors, je me suis dit, ça ferait bien de me coucher sur la galerie, puis tu sais, bien à l'abri, là.
Ouais.
Puis il pleut.
Hey, ça, bon. Là, t'as-tu un toit sur ton...
Oui.
Fantastique, cette affaire-là.
Ce qui est encore plus capoté, c'est quand j'ai le temps de faire un tisson dans mon char, là, parce qu'il faut que j'attende que le trafic passe ou j'ai un peu de temps, je suis brûlé. Mon toit de toile, de Jeep, quand il mouille à Sio, là...
Ah, ça fait pas un lac, ça?
Ben, sur le dessus.
Oui.
Mais moi, je suis dans mon char, j'entends ça tomber sur mon toit de Jeep.
C'est paisible.
Et je m'endors comme un petit bébé.
Le pire, c'est qu'un matin, j'ai trouvé c'est tough me lever parce que moi aussi, ça m'endort, ce son-là. C'est comme si un matin, là, j'ai ouvert ma garde-robe, là, puis là, j'avais comme qu'est-ce que je mets aujourd'hui, puis la seule affaire que j'avais le goût de mettre, c'était un pyjama. C'est genre la température, moi, j'ai le goût de m'enrouler dans une doudou avec un chocolat chaud. Ouais. Là,
il te reste juste tes patoufles. T'es venu travailler à la station en patoufles.
Oui, j'ai mis un espèce de gros col roulé confortable, là, avec des bas hauts, puis des leggings, là, puis des patoufles, puis je me suis fait couler un chocolat chaud pour commencer le show. Fait que je suis franchement heureuse en ce moment.
Je suis franchement heureuse. Ouais, c'est un 13 degrés comme température. C'est de la pluie tout au long de la journée, même dans le retour avec Denis, Véro et Pinchot. Vous aurez probablement un orage, si on en croit Environnement Canada. Entre 15 et 25 mm annoncés, maximum de 16 pour aujourd'hui. Orage, ça me surprendrait, mais bref, ils ont étudié là-dedans. Ils doivent en savoir plus que moi. Là. Ce soir, cette nuit, quelques averses qui devraient débuter en soirée. Donc, il devrait y avoir une petite accalmie en début de soirée. Nuageux par la suite avec des probabilités d'averses à 40%, minimum de 11 degrés. Demain vendredi, c'est le retour du soleil avec un 30% de probabilité d'averses seulement, maximum de 20 degrés. En soirée, des passages nuageux, minimum de 13. Et pour ce qui est du week-end, le topo n'a pas changé. Là. Toujours du soleil ce week-end, maximum de 19. Dimanche, ensoleillé, maximum de 21. On est dans nos dernières belles fins de semaine de moto où on n'est pas trop habillé.
C'est vrai. Profitez-en solidement. Le pire, c'est qu'une journée comme aujourd'hui, c'est pas dérangeant, mais c'est dérangeant sur les routes parce que déjà de la circulation, on dirait que le monde ne savent plus chauffer. Hein? Première neige, grosse pluie, comme si on n'avait jamais vu ça de nos vies.
Fais-moi tuer un matin.
Ah, mais écoute, pareillement. Toi, c'est-tu à cause des roulières? C'est-tu parce que t'as pogné de l'aquaplanage?
J'ai fait de l'aquaplanage. J'étais sur la voie de droite. Je passais en dessous, sur la capitale. Là, il y a des réparations. Des petits murets de béton qui ont été mis à certains endroits. Puis des fois, tu as des petites courbes. Puis sur l'autoroute, mettre des petites courbes, c'est jamais la meilleure des idées. Mais gars, ils n'ont pas le choix. Là. Ils doivent travailler là.
Ben oui.
Puis j'ai pogné effectivement une roulière remplie d'eau. Puis je l'avais pas vu. Parce que normalement, je ralentis. Là, je l'avais pas vu. Puis comme j'ai des méga gros pneus, je suis parti en aquaplanage par la droite. Je sais pas si tu as déjà eu cette impression-là. Là. Tu sais, quand tu as l'impression que le cœur t'arrête pendant 2 secondes.
Ben oui, totalement. T'as tout en dedans, pogne, se contracte. On dirait que tu.
Puis là,
c'est le bruit qui vient avec.
La meilleure des affaires à faire, ils nous disent tout, touche à rien, ton char va revenir dans sa position initiale. Mais faut que tu y penses.
Ben, c'est parce qu'au-delà de ça, t'es pas tout seul sur la route. Fait que la peur, c'est pas juste ton char va-tu se replacer. C'est je vais-tu rentrer dans quelqu'un va-tu me rappeler
dedans? J'ai pas donné de coup de volant, je m'en suis sorti. Puis je suis bel et bien sauf et au sec ce matin. J'ai des collègues qui viennent travailler à la station à pied.
Oui.
Et qui se sont fait arroser sur le bord du trottoir. C'est-tu insultant? C'est quand t'es habillé pour aller travailler, t'es toute propre, tu viens de prendre ta douche, puis quelqu'un passe avec son véhicule, mettons.
Comme dans les films.
Il ralentit pas, il passe dans la flaque d'eau, puis toi, tu reçois tout ça dans la face. Tu sais que même courir, tu réussiras jamais à le rattraper, mais ce que tu veux dans ta tête, c'est vraiment y casser la gueule.
Puis le pire, c'est que ce personne-là dans le char s'en est sûrement soit un pas rendu compte, soit s'en est foutu comme dans la 40. Mais il me semble que c'est la première base, là. Quand tu vois des gens, il me semble que tu ralentis, c'est plein d'eau. La conscience.
J'ai un témoignage à faire.
T'as déjà fait ça?
Je peux pas mentir.
Arrête, Yann.
Ça m'est déjà arrivé
d'arroser
quelqu'un. Puis j'ai. Tu sais, mon premier réflexe, là, c'est d'arrêter pour m'excuser.
Mais j'espère!
Mais j'ai continué parce que j'étais honteux de pas l'avoir vu, de pas avoir vu la flaque d'eau. Puis moi, je l'ai vu comme au ralenti, là. Écoute, ça a fait comme une vague d'eau qui s'est levée.
T'as le temps de te dire « fuck ».
J'ai vu la face de la dame et de son enfant.
Ah non. Oh, non, il y avait un enfant en plus!
Oui.
Lui, tu n'as pas laissé de chance.
J'ai vu la face de la dame et de son enfant. Puis ils se sont toutes fait arroser. Puis là, je me dis, j'arrête-tu pour m'excuser, mais je suis trop honteux.
Ah, oh, Yann! Puis t'aurais sûrement désamorcé sa journée.
J'ai continué mon chemin. Puis là, je me disais, mais comment je peux me reprendre? T'sais, je me disais,
j'espère que tu dors pas à nuit. J'espère que ça te hante encore.
Hey, tu sais quoi? Je vais me faire juger, mais j'ai pas le choix. Faut être honnête. Puis ça m'est arrivé. Je l'ai arrosé, la dame puis son enfant. Puis j'étais tellement honteux de l'avoir arrosé que j'ai juste continué mon chemin en me disant, maudit gaffe.
Ouais.
Essaye d'être plus alerte.
Je peux pas te contredire. Je te seconde. Moi, matin, j'ai failli mourir à cause d'un autre... comment t'appelles ça? Le conducteur, je veux dire, un voitureur. Il ne voit pas allumer encore.
Un autre voitureur.
Ouais, je suis en train de le mettre en tranquillement, pas vite. Là.
Comment t'appelles ça, quelqu'un qui conduit une voiture? Un voitureur.
Un voitureur. Oui. Un conducteur, donc, qui avait pogné, justement,
ça a été éduqué, cette fille-là. Hein, système scolaire québécois.
Le pire, c'est que beaucoup, quand même. Mais c'est plus long, quand tu pleut de même, là, c'est comme un dimanche matin, on dirait que c'est plus dur de te réveiller. Là. C'est moi une chance.
Qu'est-ce que ça fait un voitureur dans la vie, cette voiture?
Cette voiture, absolument, oui.
Je te voiture, tu me voiture,
il voiture. Oui, nous voiturons, vous exact. Voiturez. Il voiture ENT, tu sais, c'est connu. Fait que il y a un voitureur, donc, qui a failli me rentrer dedans. Parce que quand il y a le trafic, en plus de l'eau, du manque de visibilité, les gens sont impatients, c'est ce qui me fascine toujours, là. Fait que j'ai fait un saut un matin, j'ai vu une voiture de très, très près, disons-le comme ça. D'ailleurs, en ce moment, je ne serai pas amère, là, soyez prudents, mais il y a des petits ralentissements si vous êtes sur leur ancienne direction sud, dans la bretelle pour aller chercher la capitale ouest. Et tantôt, un peu plus tôt, là, il y avait un accident, une sortie de route sur Robert Clich, direction sud, entre la rue Beaulieu puis le chemin Saint-Grégoire, ça arrive sud. La voie de droite qui était comme partiellement entravée, ça a été long avant que ce soit ramassé. Puis ça fait encore des dégâts, là, parce que si vous êtes sur la 73 en ce moment, toujours direction sud, il y a de bons ralentissements à partir du pont, là, sachez-le. Là. Pour le reste, ça roule quand même bien, évidemment, si vous avez des détails, 88-971-1021, texto, gênez-vous pas.
Qu'est-ce que... Parce que moi, j'ai un souvenir de me l'être fait aussi. Là. Lorsque j'avais, pour aller chercher mon premier emploi rémunéré et calculé par le gouvernement du Québec, là, j'étais proche des anciens cinémas Charest. Toi, tu ne dois pas savoir c'est où, mais mettons, en face du Nouvel Aubrivière.
OK, oui.
Bon, il y a une grosse bâtisse, oui. Là. Ça, c'était des anciens cinémas. Puis je montais les escaliers qui donnaient accès à la haute ville. Et je m'en allais chez Ronald McDonald. J'avais 14 ans. J'avais des culottes brunes en velours. Là.
Encore du roi?
Encore du roi.
Ouais. Wow! Ça revient à mode, hein?
J'avais, de mémoire, une petite chemise, là, mais je ne sais pas trop où j'avais pris ça, mais j'avais une petite chemise. Puis quand je suis arrivé dans le haut des marches, il y a un véhicule qui est passé, qui montait, lui, la côte.
Puis c'était en entrevue ou?
Qui m'a tout arrosé.
Ouais. Oh non!
Ouais. Je suis arrivé chez Ronald à 14 ans, je sentais le chien mouillé. J'étais insulté.
C'est gênant. Ouais. C'est tellement gênant. Mais en même temps, ça arrive. Puis il y a du monde, des fois, qui s'en rendent même pas compte. Tu sais, Selon notre collègue anonyme de la station...
Elle voulait le tuer. Hein?
Cette personne-là avait l'air très consciente de ce qu'elle venait de faire. Puis elle s'est pas arrêtée pour s'excuser.
Ben, tu sais quoi? On préfère des fois penser que c'est des gens méchants qui nous ont fait ça. Là. Puis je sais pas facile. Pourquoi, c'est notre réflexe.
Ouais.
Mais je pense que dans la plupart des cas, si les gens peuvent t'éviter, s'ils peuvent voir la flaque, ils vont ralentir le plus possible ou ils vont changer de voie pour éviter la flaque. Je pense que ça, c'est dans la majorité des cas. Mais quand on se fait faire une affaire de même, on a toujours l'impression que le gars qui est dans le char, c'est un écœurant.
Il fait exprès, ben oui, mais t'as eu la vie, là.
Les camionneurs qui nous écoutent, ils disent « Salut, juste vous dire que ça m'est arrivé aussi. J'essaie de ralentir le plus possible, mais avec un semi-remorque, c'est pas évident. »
Non, puis c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas l'inventer non plus, là. Moi, j'essaie toujours de rouler, puis écoute, c'est peut-être dangereux aussi, là, mais je sais qu'on est toute une coupe à le faire, de rouler comme décalé. Tu sais, là où tu as les traces où habituellement tout le temps on roule, qui font les roulières à pleine d'eau, là, j'essaie de comme rouler, décaler un peu plus collé sur soit la ligne du centre, soit la ligne de côté, là, pour éviter de piler dans ces eaux-là. Un, pour l'aquaplanage, mais pour arroser le monde aussi. Là.
Exactement. Techniquement, il n'est pas supposé d'avoir de roulière. Hein? Techniquement, là, je dis ça de même. Là.
Ouais, mais il y en a parce qu'on roule puis que c'est pas
il y en a parce qu'on roule, mais pourquoi ailleurs, il y en a pas? Ouais,
parce que
ils roulent
avec
pareil
toi,
ailleurs.
Je comprends.
Tu sais, ils ont poussé l'audace à dire. Qu'est-ce que tu dis?
J'ai roulé mon air, hein?
Oui.
Je me suis sentie inspirée.
Il y en a qui disent que c'est en raison des pneus à clous. Je pense que les pneus à clous peuvent effectivement user un peu plus l'asphalte. Mm-hmm. Mais je veux dire, tu sais, sur Henri IV, là, quand ils nous disent « Ah, mais là, ça, c'est les gros camions qui font ces roulières-là. » Regarde l'empattement des camions versus les roulières. Puis tu vois que c'est pas les camions qui font ça. C'est vraiment le passage des autos à répétition.
Comme la peinture, ça. Il y a un petit manque de qualité.
Un petit manque de qualité. Hey, on va terminer notre séance de chiolage avec ça, si tu le veux bien. La nouvelle fermeture du pont de Québec en fin de semaine, ça va occasionner encore des problèmes. J'aime ça en parler parce que, tu sais, contrairement aux politiciens, je connais votre quotidien.
Oui.
Et je sais que la fin de semaine, vous devez vous promener parfois entre les deux rives.
C'est quoi, la 5-6e fin de semaine qui font ça? Là,
ou dans ce secteur-là, tu sais... des fois, tu es juste dans le coin des ponts, puis c'est vraiment achalandé. Fait que ça va être ça encore une fois ce week-end. Je ne sais pas, ça fait combien de semaines qu'ils ferment le pont les week-ends. Il me semble que la semaine dernière, il n'était pas fermé
non,
de mémoire.
Non, il n'était pas fermé.
Fait que ça allait relativement bien. Mais à partir de 20h, vendredi, jusqu'à lundi, 5h30, ça va être problématique dans le secteur des ponts parce que le pont de Québec sera à nouveau fermé. On parle d'épisodes de congestion et on dit que c'est nécessaire en raison des travaux sur la chaussée de la route 175. Les entraves s'inscrivent dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord du fleuve. Voilà.
Faites attention à vos déplacements. Ben, oh, faites attention, en fait. Si vous êtes capable de les éviter, évitez-les, là. Vous aurez juste le pont, la porte pour vous
mais
servir.
Mais c'est difficile d'éviter les
ben
ponts.
Mais oui. Non, mais t'as pas le choix quand t'habites l'autre bord, là, je veux dire.
Ou, admettons... Faut que tu ailles, je sais pas, mais tu as des déplacements, faut que tu ailles magasiner parce que tu as besoin de quelque chose.
Ça se passe la fin de semaine,
dis,
on s'entend.
Il n'y a pas ça aux Galeries Chagnon, faut que j'aille à Québec. Tu vois, en fin de semaine, moi, j'ai 15h30, là, ça se peut que ça soit problématique. Là. Fait qu'à 15h30, faut que je parte de Québec pour la Beauce. Fait que, mettons, faut qu'il arrive une heure avant. Ouais, fait que c'est ça. Je vais partir comme vers midi pour être sûr et certain d'être là à 15h30.
On va aller manger. Là.
Si on est en avance, on va aller manger un petit peu au resto. Puis après ça, on va embarquer. Mon gars va embarquer sa glace. Puis dimanche, ça va être un peu plus facile. C'est à 9h le matin. Fait qu'à 8h, vous n'aurez pas de problème là, sur le pont.
Je trouve ça fascinant comment c'est rendu qu'il y a du trafic le week-end. Toute artère confondue. Là. Moi, je descends pas beaucoup à Québec les fêtes de semaine. Là. Il y a les shows le matin. Mais je veux dire, à part ça, là, quand il y a des tailgates, je viens faire mon tour. Mais c'est rare que je suis là, mettons, en après-midi. Puis il y a du monde sur la route. C'est débile. Ça ralentit pas, là?
Non, ça ralentit pas. Ça ralentit pas. Puis, tu sais, il y a de la construction partout. Puis les politiciens nous disent, oui, mais, tu sais, vous savez, un pont à Québec, le pont Pierre-Laporte, c'est suffisant, même à long terme. Le pont de Québec, on sait pas trop de combien de temps qu'on va le conserver. Je sais que Pascal Paradis avait dit, bien, c'est peut-être possible d'abaisser le pont de Québec. Donc, si jamais il y a une fermeture du pont Laporte, ben les camions pourraient passer sur le pont de Québec. Mais concrètement, il y a une problématique, puis c'est certainement pas le tramway qui va venir nous sauver la vie.
On n'a pas de leçon à donner à Montréal non plus, mettons, là.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, on n'a plus de leçons, je trouve, à donner à Montréal en frais de construction, puis de chantier, puis de travaux. On est bien équipés à Québec aussi.
Oui. La seule chose que je peux reprocher à Montréal, c'est de tenter constamment de décider pour les gens de Québec. Mm. Tu sais, moi, je me suis ligué contre une décision qui a été prise à Montréal pour améliorer le transport en commun ou améliorer le transport ferroviaire ou encore les camions, les autos. T'sais, ça m'est jamais arrivé. Mais eux, très souvent, les médias, les chroniqueurs, les gens qui travaillent à Radio-Canada, qui sont payés pour écouter les radios de Québec, pour mettre des extraits de 20 secondes pour dire « Voyez-vous ce qui se dit à Québec? » Eux sont persuadés qu'ils savent à Montréal ce qu'il y a de mieux pour les gens de Québec. C'est la seule chose qui m'agace. Puis les politiciens, on dirait qu'ils écoutent beaucoup les gens de Montréal. Beaucoup trop, je pense.
Ben oui, ça, je pense que c'est pas nouveau non plus. Là, Denis Averçu, en podcast, là, les trois amigos, Gérard Deltel, Agnès Maltais, puis Sam Hamad. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu dans les extraits du podcast, qui en passant est encore disponible sur nos différentes plateformes, que ce soit le site blvd.fm ou la chaîne YouTube. Mais c'est super intéressant, par exemple, de dire que souvent, les politiciens, d'ailleurs, sont boudés par Montréal parce qu'ils veulent faire les choses autrement, tu sais.
Oui, effectivement. Quelqu'un qui me dit « Ce n'est pas la fin de semaine. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la fin de semaine, mais lundi, je dois partir de Sainte-Marie pour m'en aller vers Val-Bélair. J'ai un engagement important à 8h. Alors, si je me fais au dernier matin que je suis allé, je vais devoir partir à 5h30. Ce n'est pas 5h30 qui me dérange, c'est de partir à 5h30 et d'être payé seulement à partir de 8h parce qu'il n'y a seulement qu'une voie pour me rendre sur les ponts, la 73. ça fait du bien d'en parler. Ben oui, mais on en jase en gang, ça fait partie de nos petites frustrations. Je te dirais que si tu pars, mettons que tu veux être à Val-Bélair à 8 heures, mon ami. OK? Bon, pour faire la run à tous les lundis, là. Le lundi, c'est le pire trafic qu'on peut avoir à Québec. Que ce soit d'un bord ou de l'autre, là. Je ne sais pas pourquoi le lundi, mais c'est problématique.
Mais souvent, tu sais, on parle de télétravail, mais il y a beaucoup de gens que leur journée choisie pour rentrer au bureau, c'est le lundi.
C'est lundi.
Ça met une marque dans leur semaine.
Fait que tu as peut-être une partie de la réponse. Mais moi, ce que je fais, c'est que je pars à 6h15 de Québec. Je passe sur les ponts, il n'y a pas de problème. J'arrive en Beauce, c'est peut-être 6h40, 6h45. Puis je repars à 7h. Je suis capable d'arriver à 8 heures à la station. Puis, donc, tu vas être capable, toi, si tu pars vers ces heures-là, là, 7h10, mettons, d'être capable d'arriver à Val-Bélair, j'en suis pas mal persuadé.
C'est épouvantable, ouais. Le temps qu'on peut perdre. Ça me fascine.
Ah oui!
Pour revenir à l'arrosage, parce qu'il pleut aujourd'hui, on a Kelly qui nous dit « Quand je conduisais des trucks, j'étais sur le boulevard Laurier, je passais à côté d'un bus de ville dont les vitres étaient ouvertes. C'était magique. Le splash se levait à la hauteur du miroir de mon truck. Je me suis jamais fait faire autant. » Fait de doigt d'honneur, tiens, en même temps, dans toute ma vie rendue à lumière, ça arrose une couple de personnes
ouais.
En même temps.
Non, tu te sens mal quand ça arrive. Puis la moindre des choses, c'est d'aller s'excuser, mais tu veux pas te faire péter la gueule non plus. Là.
Ben non, mais je pense pas. Il faut vraiment être débile. Si quelqu'un prend la peine de s'arrêter aujourd'hui, là, parce que le monde n'est plus bien ben sociable, là, de venir te dire qu'il est désolé, là, mais je veux dire, je défâche assez vite. Là. Si t'as eu le courage...
Tu l'engueules pas avant?
Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai bien trop de respect pour les gens qui ont encore la bonté d'essayer. Moi, juste si t'essayes, là. Ma mère me disait quand j'étais jeune, faut t'avouer à moitié pardonner.
Des fois, j'ai l'impression, parce que c'est, tu sais, on s'entend que c'est le savoir-vivre. Là.
Okay? Mais totalement.
C'est le savoir-vivre, puis tu as très bien été élevé. Fait que salutations à tes parents.
Merci, Yann.
Mais il y a des gens qui sont tellement agressifs.
Oui, puis c'est comme incontrôlable.
Puis je comprends ton point de vue de dire, ben si la personne sort de son véhicule puis vient s'excuser, tout de suite, ça va te calmer un peu plutôt que de te fâcher. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui sont comme toi, là. C'est pas tout le monde qui est comme toi. La plupart vont vouloir te péter la gueule.
Ben on dirait, là, écoute, c'est un gros préjugé que j'amène là, OK? Mais moi, dans ma tête, quelqu'un qui va à pied au travail ou qui se promène à pied pour aller faire ses commissions, ça sonne pas agressif de base pour moi, ça sonne assez peace and love.
Ouais,
Je me sens pas... J'ai pas peur des gens qui sont à pied.
Ouais. Ben, moi non plus.
Non, mais dans le sens que, tu sais, oui, il y a des gens agressifs, mais pour moi, les agressifs okay. sont plus au volant.
J'avais une discussion avec un auditeur de 40 ans, OK? Mm-hmm. Il m'a dit, des fois, quand tu jases avec Audrey, j'ai l'impression qu'Audrey, c'est un ange qui voit pas le mal dans chaque individu. Puis je dis, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il dit, l'autre jour, tu jasais de la différence entre les gars et les filles. Quand t'ouvres la porte aux filles versus quand t'ouvres la porte aux gars. Tu t'en souviens, mm-hmm. J'ai dit que les filles nous regardent plus dans les yeux.
Oui.
C'est encore le cas. Tu sais, puis je me suis donné un billet là, de remarquer si Audrey avait raison, que toutes les filles nous regardaient dans les yeux, puis toutes les filles nous disaient merci quand on leur ouvrait la porte ou quand ou l'ascenseur, on les laissait sortir avant. Et
j'ai
ça.
Jamais parlé de toutes. Mon point, c'était plus, vous faites pareil. C'est pas vrai que la gente masculine regarde dans les yeux, là.
J'essaie le plus possible de regarder à l'horizontale.
Je te lève mon verre.
Ouais. J'essaie le plus possible de ne pas me revirer quand il y en a une qui passe à côté de moi et je la trouve pas pire. Là. Mais le plus possible, j'essaie de regarder à l'horizontale. Puis quand l'auditeur m'a dit, j'ai l'impression qu'elle voit pas les gens tels que le monde est actuellement. Tu vois tout le temps le bon dans les gens, toi. Puis ça, c'est une belle qualité que t'as.
Mais c'est aussi un beau défaut, je te dirais. Là. Je me suis fait fourrer une couple de fois.
C'est ta vie à
non,
toi.
Non, mais c'est-tu quoi le pire? C'est que à ce stade-ci, je peux pas ne pas donner raison à cet auditeur-là. J'ai un petit côté, je vais appeler ça naïf volontaire, parce que le côté naïf, c'est le terme qui m'énerve le plus. Je trouve que c'est très, très péjoratif. Là. Mais je pense que il y a une limite à avoir tout le temps la marde dans le monde. Je préfère espérer qu'il y a un bon fond à quelque part puis qu'il y a une raison dans les actions qui te pousse à que le contraire.
Ouais.
Fait que je veux dire, c'est sûr que ma première pensée n'est pas toujours positive, mais après okay. ça, j'essaie de me raisonner parce que je me rends compte que si je sais que tes intentions sont mauvaises, ça va m'impacter, ça va me mettre en maudit.
Okay.
Fait que c'est peut-être une protection personnelle plus qu'autre chose. Là.
Non, c'est cool. Puis moi, je pousse ma réflexion là-dessus quand tu dis, quand tu ouvres la porte à quelqu'un puis la personne ne te dit pas merci, absolument rien. Je me dis tout le temps, cette personne-là doit tellement s'être faite achaler par les gars.
Ah, ça mon Dieu, tu vois ça de même.
D'abord, tu sais, les filles qui sont vraiment méchantes envers les gars, je me dis tout le temps, tu sais, quand les filles se font offrir un verre ou se font dire bonjour, mm-hmm. puis ils revirent le gars comme si les ouais. gars, c'était des moins que rien, je me dis tout le temps, c'est parce qu'il y en a qui ont abusé. qui ont essayé de...
Je pense qu'il y a un manque de savoir-vivre.
Exact. Qui ont eu un manque de savoir-vivre envers ces gens-là. Puis ces gens-là, aujourd'hui, sont rendus réfractaires à tout. Fait que la fille qui regarde à terre est juste tannée que les gars l'achalent. Mais en même temps,
mais pour moi, c'est pas une raison. Mais exactement. Puis le manque de savoir-vivre, en passant, moi, je parlais pas de l'homme, je parlais de la fille. Je trouve que des fois, là, la femme, dans ce genre de contexte-là, peut avoir un manque de savoir-vivre pour une raison que je ne comprends pas. Mais moi, quand t'ouvres la porte, là, pour revenir au civisme de base, là, si quelqu'un dit pas merci, je vais avoir le réflexe de dire « Hey, ça me fait plaisir, bonne journée. » Juste, « Hey, ça se dit encore, hein, merci, ça s'apprend encore. » Pourquoi tu serais pas capable? C'est pas quelque chose qui...
Non, ben c'est parce que, je veux dire, on fait de la radio, mais là, nos faces sont ces autobus. Fait que je veux juste pas être insultant. La personne veut pas te dire merci parce que tu as ouvert la porte. Sac-toi-en, cette personne-là ne se souviendra pas de toi dans un an. T'sais.
Ah, mon Dieu, on sera jamais autant pas d'accord.
Non.
Mais je trouve que c'est vraiment une question de savoir-vivre. C'est pas une question de ce que tu fais dans la vie. Tu seras pas insulté parce que tu recherches la politesse, Yann. En tout cas, moi, chez nous, là, la base, là, mes parents m'ont appris bien des affaires, mais ce que mon père
nous
a toujours...
me disait toujours.
Ce que mon père a toujours martelé dans la famille chez nous, c'est respect. Et au sens large, le respect, c'est important dans la façon que tu parles aux gens, dans les bons, les mauvais moments, dans la façon que tu réponds, que tu agis en société. Fait que chez nous, ça a toujours été très, 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 très sévère au niveau du respect. Puis moi, ça me travaille encore. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais des petits poux, mettons, là, qui disent pas « s'il vous plaît, merci », là.
Ça t'insulte.
Oh, ça me fâche. C'est la première affaire, je vais apprendre à mes enfants. Tu dis « s'il vous plaît, merci » quand on t'offre quelque chose, c'est simple. Ça fait pas mal à personne, là.
C'est un combat d'une vie avec tes
enfants.
Mais
j'en doute même pas. C'est facile à dire, j'ai pas d'enfants, là. Ouais. Je comprends, là.
Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été habitué, je l'avais compté, j'ai toujours été habitué à vouvoyer les gens qui étaient plus âgés que moi. Fait que quand j'ai rencontré mon beau-père était jeune, il a eu ses enfants très jeunes. Mémoire, Sylvain, il a eu sa première, qui est la mère de mes gars, à 18 ans. Fait que tu comprends que quand j'ai rencontré la mère de mes gars, son père était encore très jeune, puis je le vouvoyais.
Ben, par respect.
Fait qu'il était fin quarantaine, là.
Oui. Moi, je le demande à la limite. T'sais, avec la job qu'on fait souvent là, pour les invités et tout, je vais le demander est-ce que c'est correct qu'on se tutoie. Mais sinon, prime abord, c'est ce qu'on m'a appris, le vouvoiement. Puis, là, en même temps, je veux dire, je critique, c'est une généralité. Là, c'est pas tout le monde qui est de même. La majorité du monde, ça vive, là. Mais c'est fâchant quand c'est...
Arrête de faire des nuances.
C'est le contraire. Mais j'essaie
d'être
nuancée. On
pourrait pas faire de la radio si on faisait tout le temps des nuances.
Ouais, monsieur spectacle.
418-971-1021. Si vous avez des choses à nous dire aujourd'hui, gros show.
Oui, gros show. On a deux invités. On a Andréane Letendre, qui est enfant de la procréation assistée. Donc, en gros, bon, manque de fertilité dans la famille. Ils sont allés vers un donneur anonyme. Puis elle a voulu retrouver ses origines grâce à l'ADN. Fait qu'elle va nous raconter un peu son histoire, puis le processus aussi, puis l'espèce de combat qu'elle mène pour que les donneurs ne soient plus anonymes, justement. On va parler aussi avec Marilyn Dion, qui est DG de l'organisme Ma Place au Travail. Je ne sais pas si vous connaissez, mais cet organisme-là, en fait, travaille à se battre contre la pénurie de place en garderie, ce qui est très d'actualité et qui le sera toujours. Fait qu'on va parler un peu des enjeux en ce moment. Puis surtout, j'espère, de solutions éventuelles. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'effectivement, c'est une très grosse émission dans l'Open Mic. Bienvenue.
Yes! 10h24, on fait une courte pause. En fait, non, on va aller en musique, si tu le veux bien. On va essayer d'accélérer les choses. Les trois accords, caméra, vidéo sur les ondes de boulevard. On revient. En 27 minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous avez quelque chose à nous dire? Vous êtes nos yeux, nos oreilles? Vous avez des commentaires? On est là pour ça. 418-971-1021, ça fonctionne par texto. Madame Pinchot, aujourd'hui, on parle de procréation assistée. Est-ce que tu connais un peu la procréation assistée?
Bien, c'est l'insémination artificielle,
ouais. J'ai déjà failli passer par là pour mon premier enfant. Nous autres, ça a pris 8 ans fabriquer. Ben, en fait, moi, ça m'a pris 30 secondes. Là. Mais ça a pris 8 ans... fabriquer mon premier enfant.
Est-ce
beaucoup de pratique. Je ne sais pas de quelle façon on faisait ça, mais bref, ça a pris 8 ans. Mon deuxième, ça a pris une semaine.
Oh, OK. Un coup, la fou. Pratique puis le corps habitué,
donc,
ça a bien été.
Donc on... ouais, c'est ça. D'après moi, c'était... je faisais pas ça du bon bord.
Innocent!
Si! J'étais un gars de main!
Non, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle avec Andréane Letendre qui est enfant de la procréation assistée, je vais le dire comme ça, et avec le temps, elle a décidé de se lancer dans une quête pour retrouver ses origines grâce à l'ADN. Fait qu'il y a comme mille et une questions sur le parcours, sur où on en est en ce moment, sur la quête aussi de faire changer la loi parce que les donneurs sont anonymes. C'est compliqué, là, retrouver tes origines, là. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en compte.
Ouais, je sais pas si un jour je pourrais, parce que tu sais, il y en a qui redonnent à la société, il y en a qui, oui. Tu sais, nous, on amasse des fonds pour la bouchée généreuse, ouais. Et tout ça. On se dit tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Peut-être qu'un jour, ça pourrait me passer par la tête de vouloir donner.
Mais
pour...
tu sais, Yann, on fait des dons de sang.
Ouais, c'est ça.
Fait que pourquoi on ferait pas des dons de sperme ou. Tu sais, je trouve qu'il y a, rien de.
Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine émission, là, le fameux don de sperme, ouais. Comment le faire.
Ou d'ovules, là, en
qui
passant.
Qui peut le faire, qui fait ça. Les dons d'ovules, c'est à peu près la même affaire. Mais ça existe depuis des décennies et des décennies. Et on a le plaisir d'accueillir Mme Andréanne Letendre qui est avec nous. Andréanne, salut!
Salut!
Merci beaucoup de te prêter au jeu avec nous autres puis d'accepter cette entrevue-là pour nous parler un peu de ton histoire. Je ne sais pas si c'est facile constamment parler de cette histoire-là, mais en bout de ligne, ça aide énormément de gens. Puis merci de le faire. Merci d'être avec nous.
Ben ça me fait super plaisir. Moi, c'est un sujet que j'aime bien, dont j'aime bien parler généralement. Je suis un petit peu intarissable là-dessus.
Ouais. Est-ce que tu l'as su à un très jeune âge que tu étais issu de la procréation assistée?
Moi, je l'ai appris, j'avais 12 ans. Fait que, tu sais, j'avais toujours eu un feeling qu'il y avait quelque chose qui clochait.
Hein?
Mais oh oui? Oui, c'est quelque chose que je sentais. Tu sais, un peu comme si tout le monde avait... Tout le monde savait quelque chose que moi, je savais pas.
Ah, OK.
Puis, tu sais, ma mère me l'a dit. Puis ça a été quand même un gros choc quand je l'ai appris parce que, ben tu sais, à 12 ans, là, tu sais, tu as eu le temps de te faire une partie de ton identité. Puis là, tu fais comme, OK, il y a quelque chose que je comprenais pas, là. Il y a une information à laquelle j'avais pas accès. Puis, tu sais, c'est un peu un choc. T'sais, on dit 12 ans, c'est tard pour l'apprendre, là. Généralement, ce que la plupart des spécialistes recommandent, c'est de le dire à l'enfant pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, là. C'est vraiment au début, même s'il n'est pas apte à comprendre, parce que ça demande pour le parent beaucoup de... Ça demande de la pratique, parce que c'est pas quelque chose de facile à dire à son enfant. Fait que généralement, maintenant, là, les spécialistes disent « Commence à le dire à ton bébé quand il est dans ton ventre. » Puis ça va te permettre de comment le formuler, tu sais, comment faire tes phrases pour que l'enfant, après ça, en grandissant, ben, tu continues à le répéter. Puis à faire les phrases, puis à le dire. Puis c'est quelque chose qu'ils vont intégrer. Puis, tu sais, comme ça, ce sera pas un choc là, dans ouais. sa vie. Là.
Mais est-ce que c'est... J'ai des questions cruelles en passant. Là. De l'autre côté, c'est la douce, puis l'autre côté, c'est le cruel. Okay. Est-ce que c'est si important que ça de le dire à son enfant? Parce qu'à mes yeux, à moi, quand on a un enfant, qu'on soit le père biologique ou le père adoptif, entre guillemets, de cet enfant-là, tu vas l'aimer tout autant. Est-ce que pour l'enfant, c'est vraiment important de l'apprendre?
Bien, c'est vraiment important, dans une perspective d'honnêteté, tu sais, si le fait d'avoir un enfant par procréation assistée, ça fait de toi quand même pleinement son père, tu sais, ouais. Même s'il n'est pas biologiquement lié à toi, bien, tu sais, tu ne devrais pas te sentir menacé par, tu sais, ta paternité ne devrait pas se sentir menacée par le fait que tu as eu besoin d'aide pour l'avoir. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est super important pour un enfant de savoir s'il y a des antécédents médicaux, ouais. biologiques, quoi que ce soit, tu sais, d'être au courant. C'est le vrai. Nombre de fois dans notre vie où est-ce qu'on se fait demander, ben, est-ce que tes parents, y avaient des antécédents de cancer, de diabète, de, tu sais. Puis on a beau dire que les donneurs sont testés, il y a des maladies qui peuvent se déclarer plus tard là, dans sa vie. Fait que c'est important de savoir ça. Parce que, ben oui, pour comme faire des choix éclairés en santé là, pour chacun de nous autres, t'sais. Fait que il y a ça aussi. Fait que il y a l'honnêteté, il y a le fait de, t'sais, de dire que ouais, t'sais, faut qu'on le sache. Il y a toujours, nous autres, comme personne qu'on soit, on a toujours un peu peur aussi de rencontrer quelqu'un qui est finalement notre demi-frère, puis créer un lien avec cette personne-là, t'sais. Puis on le sait pas, ou même des cousins au premier degré, tu sais, ils seront pas nécessairement avertis de tout ça. Fait que c'est important qu'on le sache aussi, parce que, ben après ça, nous autres, on se retrouve avec ce problème-là à gérer, ben on va avoir à le discuter. Là, quand moi, je commençais une relation quand j'étais plus jeune, ben tu sais, c'était comme, OK, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise à propos de moi, tu sais. Puis j'espérais toujours de savoir, tu sais, ça se pourrait que cette personne-là ne sache pas non plus. Là. Fait que c'est comme quelque chose d'important de savoir dans sa vie.
Oui, puis on pense pas à ces affaires-là, on dirait. Tu sais, est-ce que, là, c'est à 12 ans que tu l'as su. À partir de ce moment-là, ça t'a-tu hanté pendant des années? C'était-tu difficile de pas avoir d'informations sur tes antécédents génétiques?
Ben oui, un peu, ben un peu beaucoup, tu sais, parce que tu sais, tu le sais pas, tu dis, ben si mettons j'ai des enfants là, est-ce qu'ils vont avoir des maladies que je connais pas. Puis c'est pas juste des maladies, il y a des choses, tu sais, que je me suis rendu compte maintenant que je connais mon parent génétique. Il y a des choses, je me suis rendu compte que j'avais hérité de lui, qui sont pas des affaires bien graves, tu sais, genre mon sourire, tu sais, j'ai le même sourire que lui, mais je me souviens, tu sais, que quand j'étais à l'école, puis que c'était la photo de classe, là, je me regardais dans le miroir, puis là, je me pratiquais à sourire, puis je me regardais, puis c'est pas laid, mais ça me dit rien, ce sourire-là, ça ressemble à rien que je connais, tu sais. Fait que, tu sais, on dirait que maintenant, là, chaque fois que je me vois dans le rétroviseur de mon char, tu sais, je fais comme, ah oh, ouais, je le sais d'où ce qui vient, ce sourire-là, Esther, tu sais.
Ah, c'est
mais
beau, ça.
C'est quelque chose que, tu sais, je savais pas... je savais pas gérer, c'est pas quelque chose de bien grave, là. J'ai pas une face vraiment spéciale.
Non, mais c'est quelque chose qu'on peut pas autres. Comprendre, j'imagine, avant de le vivre. À quel moment tu as décidé que tu le trouverais, ton géniteur? Puis raconte-nous peut-être un peu le processus autour de ça aussi, là.
Mais tu sais, c'est sûr que moi, la première fois, quand ma mère me l'a dit, je voulais trouver c'était qui. J'ai dit, tu sais, on peut-tu retourner à l'hôpital puis savoir, avoir des informations, le dossier? Puis tu sais, ma mère était comme, oh ouais, tu sais, si tu veux, on pourra aller voir, mais tu sais, c'est un mur total. Là. À ce moment-là, là, c'était l'anonymat généralisé, puis ils n'ont pas gardé les dossiers. Là. Fait que y a rien à savoir. Là, puis même s'ils avaient gardé, j'y aurais pas eu accès.
Ouais, mais psychologiquement, à 12 ans, t'as pas réagi plus que ça. Il me semble que j'aurais été fâché, moi, qu'on me l'ait pas dit.
Je me suis vraiment fâchée avec ma mère. Là, mais on dirait que tu sais, en même temps, c'est comme une colère qui n'était pas utile. J'ai beau être bien fâchée de ça, ben je suis en vie, tu sais, c'est ça, tu sais, il va falloir que je fasse avec, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis c'est aussi quelque chose d'assez gros. Fait que rapidement, là, dans les semaines qui ont suivi, j'ai comme mis ça sous le tapis, puis j'ai dit, ben garde, il n'y a rien que tu peux faire pour changer.
Oh.
Parce qu'on vient de te perdre. Bon,
oh, elle a quitté. Disparu.
Elle a quitté, c'est pas grave.
On va essayer de se reconnecter.
Repartir
moi,
ça dans les prochaines secondes. Mais c'est ça, hey, t'apprends ça à 12 ans, toi.
Ah non, mais c'est fâchant. C'est quelque chose probablement qui vient te chercher en dedans. Puis en même temps, tu dois avoir mille et une questions par rapport à tes parents aussi. Tu sais, le processus, t'es pas en âge de comprendre à 12 ans pourquoi, comment ça marche faire un bébé, pourquoi ça n'a pas fonctionné dans le cas de tes parents. C'est beaucoup, beaucoup d'interrogations.
Oui, puis tu la réaction que j'aurais pu avoir à 12 ans, Audrey, c'est une réaction de trahison. Attends un peu, là, mon père m'a toujours fait à croire qu'il était mon père. Tu sais, tu comprends pas là, qu'un père adoptif peut t'aimer autant qu'un père biologique. Là. Tu comprends pas ça quand tu as 12 ans. Fait que t'as l'impression que la personne qui est à côté de toi, en tout cas du moins ça aurait été ça pour moi, que la personne qui est à côté de moi joue aux comédies.
Oui, mais oui, c'est ça. On a-tu vraiment une relation où on n'en a pas une, tu sais? J'ai l'impression qu'Adrienne va nous recontacter par téléphone. L'ordinateur a décidé de complètement lâcher. Fait qu'il n'y aura pas de reconnexion par Zoom. Mais non, je trouve ça super intéressant. Puis j'ai hâte de comprendre aussi le processus à travers lequel tu passes, parce qu'elle l'a dit, hein. Quand t'es arrivée à l'hôpital, il n'y a pas de dossier, il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a pas de façon de trouver. Fait qu'à part, mettons, les réseaux sociaux, les groupes, les différents groupes de comment ils appellent ça, là, ces internets, là, pour retrouver ton arbre généalogique, là, ouais, ta génétique. T'sais, c'est par ça que tu n'as pas le choix de passer à un certain point. T'sais. Fait que non, ça c'est tout qu'un processus. Elle est en train de tenter de se reconnecter de ce qu'on m'écrit en passant, si jamais tu veux regarder sur le Zoom. Puis si vous avez des questions, c'est le 418-971-1021. Hein. N'hésitez pas, là, c'est des situations qui sont tellement communes. Là.
Voilà, je crois qu'elle est de retour. Salut, Andréane.
Oui, je suis là. Bon. Désolée. J'ai eu un petit problème d'ordinateur.
C'est pas grave. On se jasait pendant que tu nous as quittés, pendant quelques secondes. On se disait, ma première réaction à moi, personnellement, Marceau, là, j'apprends à 12 ans que ma mère m'a caché un terrible secret pendant 12 ans. J'étais en phase de préadolescence. Puis que le monsieur qui est à côté de moi, que j'aime énormément, c'est un comédien qui me fait croire qu'il est mon père depuis 12 ans. Ça aurait été la panique générale dans ma tête. T'as été forte, toi, dès le départ, là.
Ben oui, puis il y a différentes façons de réagir à ça. T'sais, moi, c'est comme, à un moment donné, peut-être aussi que mes parents avaient bien géré ça, là, d'une certaine façon. Ma mère, je pense que non, elle a peut-être pas aimé la colère que j'ai piquée par après. Mais t'sais, c'est peut-être ma façon à moi de réagir, t'sais, de dire, ben là, c'est quoi, sur quoi tu as du pouvoir puis sur quoi tu n'as pas de pouvoir. T'sais. Fait que oui, j'ai balayé ça en dessous du tapis, puis t'sais, j'ai comme pas trop pensé à ça. Une fois de temps en temps, t'sais, ça me revenait, puis là, tu sais, le sujet, tu sais, j'abordais des fois le sujet avec des amis, mais sais, c'est pas quelque chose que tu parles au quotidien mais avec non, tout ça. Le monde, là, tu sais. Fait que pendant un grand moment, tu sais, moi, je me disais, ah non, mais j'aurais pas d'enfant, là, je sais même pas qu'est-ce que je vais transmettre à ces enfants-là, là, génétiquement, je suis peut-être mieux pas, puis peut-être que j'ai 500 frères et sœurs qui se baladent dans la nature.
C'est quelque chose qui arrive.
Ouais, ben, y a, c'est plus fréquent qu'on le pense parce qu'il n'y a pas vraiment de limite légale sur le nombre de descendants qu'un donneur peut faire.
Okay.
Puis, à l'heure actuelle, ce qui est utilisé beaucoup c'est dans les cliniques de fertilité, c'est des donneurs qui proviennent des États-Unis. Puis, il n'y a pas de normes là non plus. Ce qui fait que souvent, les cliniques vont avoir. Il y a quand même une certaine difficulté à recruter, fait qu'ils vont avoir tendance à utiliser beaucoup les donneurs qu'ils ont. Ça fait que, tu sais, dans le monde, tu sais, je suis en contact via les réseaux sociaux avec d'autres personnes conçues comme ça, puis des cohortes de 50, 100 descendants du même donneur, là, ça existe. Ouais. Fait que ça aussi, c'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup.
Puis tu sais, t'es encore très jeune, là, mais je veux dire, à l'époque, ceux qui donnaient, c'était des gens qui étaient hautement éduqués. Là. C'était des gens qui faisaient partie même du monde de la santé. Ça pouvait être des docteurs. Est-ce que c'était encore...
Pas nécessairement.
Non?
Pas nécessairement. Tu sais, c'est ce qu'ils disaient beaucoup aux parents quand ils allaient dans la clinique de fertilité. Puis c'était très rassurant, je pense, pour les parents à cette époque-là de se faire dire, c'est un étudiant en médecine, ouais. C'est quelqu'un qui était... mon père biologique, il était au cégep, il venait de partir de chez ses parents, ça donnait 40$ faire un don de sperme à cette époque-là, puis tu sais, c'était quand même assez minimal là, comme test ce qu'il y avait, là. C'était on vérifie que t'es fertile et ça va.
Ça donnait 40$?
Ça donnait 40$ en 83, tu sais, c'est quand même 40$ en 83, tu faisais l'épicerie, là.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Mais là, je suis en train de me dire qu'adolescent, j'aurais pu vendre tout ça, je serais devenu millionnaire. Là.
Mais ça prend 18 ans, là, je pense, pour donner, puis je pense que c'était le cas aussi dans ce temps-là. Ouais. Mais, tu sais, les critères n'étaient pas super élevés. Ben là, super élevés, je ne peux pas me plaindre, là, j'ai vraiment un donneur...
De qualité.
Extraordinaire, ouais. Là, t'sais. Mais, tu sais, les critères qu'ils disaient, c'était pas nécessairement là, ceux qui étaient appliqués parce que c'est pas nécessairement facile de recruter des donneurs de sperme. Okay.
Là, Andréane, on a des textos qui entrent, des gens qui vivent des difficultés, soit avec le fait, justement, d'avoir un enfant, qui ont eu recours à des donneurs. Peux-tu nous parler du processus? Je veux vraiment connaître le processus pour retrouver un donneur parce que, de ce que je comprends, ça n'a pas été facile dans ton cas. Puis il y en a peut-être, là, des gens de ton âge ou un peu plus jeunes qui sont dans la même situation, qui aimeraient ça retrouver leur mère ou leur père biologique, là, tu sais.
Bon, il y a comme plusieurs façons de faire. Il y a la façon, tu sais, légalement, là, les lois vont changer prochainement. Là, à partir de 2025, il va y avoir un registre qui va être... 2025 ou 2026, je ne me souviens plus de la date exacte, il va y avoir un registre qui va être créé. Puis ça va être possible de faire une demande via ces registres-là. Puis là, ben, ça va dépendre de qu'est-ce que les cliniques ont gardé comme information. Puis aussi, ça dépend, si vous avez utilisé un donneur qui vient de l'extérieur du pays, ben, on n'a aucun contrôle là, sur qu'est-ce qu'eux vont vouloir transmettre, tu sais, au gouvernement ici. Fait que l'autre technique qui est pas mal la plus efficace puis qui fonctionne le plus, c'est les tests d'ADN. Puis ça, ben, c'est des entreprises privées. Il y a plusieurs banques de données là, qui existent sur Internet. La plus connue, je pense, au Québec, c'est Ancestry. Au Canada, c'est Ancestry. Il y a 23andMe qui est vraiment populaire aussi. FamilyTree DNA, il y en a plein. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on achète un test sur ces banques, sur ça. Ça coûte une centaine de dollars. Il y a des réductions dans l'année. Là, il y a moyen de trouver un deal, là, tu sais. Puis on envoie un échantillon de salive. Dans le fond, on crache, là. Ben, ça dépend, là, soit avec un petit cure-dent, pas un cure-dent, un cure-oreille, là, un petit Q-tip, là. Mm-hmm. Et où on crache dans un petit tube. Puis on envoie ça par la poste. Puis là, eux autres, ils font l'analyse de notre ADN qui se trouve dans notre salive. Puis, ils nous renvoient après ça nos résultats. Puis là, ils vont comparer cet ADN-là avec toutes celles des gens qui ont fait un test sur cette base de données-là. Il y a des gens qui font ce test-là pour des raisons juste purement personnelles. Là. Ceux qui font de la généalogie, par exemple, ça peut être super intéressant de faire ça. Ceux qui ont... parce que des fois, tu sais, quand tu fais ta généalogie, il peut te manquer un bout de ta famille, tu sais. Les personnes adoptées vont le faire beaucoup. Puis il y a des gens qui trouvent ça juste cool de faire son ADN, tu sais. Fait qu'il y a quand même des grosses bases de données. Puis là, ils vont matcher les données qu'on a avec celles des gens qui sont sur la base de données. Donc, puis ils vont déterminer le... lien de parenté probable. Fait que quelqu'un qui partage tant de pourcentage d'ADN avec toi est peut-être un cousin au premier degré, au deuxième degré, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, tu sais. Fait que ces pourcentages-là, après ça, ben, on peut contacter ces gens-là. Là. On peut être mis en contact via la banque de données, puis les contacter. Puis après ça, ben, c'est un petit travail de détective qui peut être long, tout dépendant de ce qu'on a trouvé comme match.
Y a ça des a pris gens combien d'années, toi, retrouver ton donneur?
Moi, pour retrouver mon donneur, ça m'a pris... Ben, tu sais, j'ai fait mon premier test ADN, je l'ai fait en 2013. Fait que, puis là, après ça, ben, je me suis mise sur toutes les banques de données qui existaient, là, tu sais, à mesure que ça devenait disponible, parce que c'était quelque chose de, v'là 10 ans encore, c'était quand même quelque chose d'assez récent, là, comme technologie, puis il n'y avait pas tant de gens que ça dans les banques de données. Mais au fil du temps, ça s'est vraiment démocratisé, puis ça s'est popularisé beaucoup. Fait que, à un moment donné, j'ai eu un match de cousins au premier degré, qui se trouvaient à être les neveux-nièces de mon donneur. Fait que, c'est comme ça que j'ai. Puis là, c'est tout le processus d'entrer en contact avec eux, parce que tu veux pas qu'ils te bloquent, parce que s'ils te bloquent, ben là, tu viens de perdre toute ta chance, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont dire, ben là, je te donnerai pas d'informations, un donneur de sperme, c'est anonyme, puis je veux pas t'aider, tu sais. Ouais. Fait que c'est toujours la game de dire, qu'est-ce que je dis, j'en dis-tu plus, j'en dis-tu moins. Les gens sont toujours plus portés à nous aider quand on est adopté que quand on est conçu comme ça, alors que, tu sais, en réalité... Y a pas, les deux quêtes se valent, là, selon moi. Là,
fait que ça a pris quoi, 10 ans?
Aussi bon que l'autre. Fait que ça a pris comme 10 ans avant d'avoir ce match-là. Vraiment, là. Puis même le match, il était peut-être un petit peu plus tôt, mais au début, là, quand on commence à faire des tests, là, on va voir le... Tu sais, tu vas refresh tes matchs deux fois par jour.
Souvent,
là, parce que tu as hâte de voir des fois que quelqu'un aurait fait un test puis que là, ses résultats viendraient de rentrer, tu sais. Puis à un moment donné, ben là, tu fais comme, OK, là, j'ai rien trouvé, fait que c'est bon. Là, j'y allais peut-être une fois aux 6 mois, une fois par année, voir si j'avais des nouveaux matchs, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait, oh, il y a un match de cousin au premier degré qui n'est pas du côté de ma mère. OK, tu sais, c'était une grosse surprise, là.
OK, puis...
Il y a des gens qui font cette...
Oui. Lui, est-ce que... comment il l'a appris que tu le recherchais?
Ben, j'ai contacté... j'ai contacté... C'est la
le
personne
cousin.
Qui gérait le compte, là. Mes cousins, ouais, c'est ça. À un moment donné, ben, eux m'ont mis en contact. Ça n'a pas été long. Je me suis vraiment retenue de leur écrire parce que j'avais peur qu'ils me bloquent. Puis finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, ils ont été bien... Ils ont collaboré. Moi, mon donneur, il était bien ouvert avec le fait qu'il avait donné du sperme dans les années 80. Genre, sa famille était tout au courant. Fait
donc,
que,
donc il, savait que, il savait qu'un jour, ça se pouvait que ça revienne dans sa face, là.
C'est ça, exactement. c'était comme un running gag, eux autres, d'un party de Noël. Ah, ben oui, mais moi, j'ai donné du sperme dans les années 80. Là,
ah,
fait
ouais.
Que, tu sais, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui reviennent. Là, puis qui... Ben, en fait, tu sais, c'était pas quelque chose de possible là, dans les années 80. Là, l'ADN, on savait pas, là, on pouvait pas faire grand-chose avec ça. Il y en a probablement qui se disent, il y a jamais personne qui va savoir que j'ai fait ça un jour.
Puis la première rencontre, ça s'est fait comment avec ton donneur?
Ben, on a commencé par s'écrire parce que, tu sais, c'est via les réseaux sociaux là, que j'ai réussi à le contacter. Fait qu'on s'est écrit pendant un petit bout. On a refait un test d'ADN là, pour confirmer que c'était vraiment lui. Puis on s'est donné rendez-vous dans un lieu public, là, dans un parc à Montréal, pour, dans le fond, pour se rencontrer en personne. Là.
C'était
quand même assez,
tu devais trembler
assez
comme
haut en émotion.
Ben
là.
Oui, tu devais trembler
ah,
comme
oui,
une
oui.
Femme.
Non, tu sais, ce que je vais dire là, aux personnes qui vont un jour faire cette rencontre-là, conduis pas, t'es pas en état de conduire quand tu te rends là. J'étais comme, j'approchais, puis je me suis envenue en char, puis là, j'étais comme, hey, sérieux, je suis pas en état. Tu sais, j'ai arrêté. J'ai appelé une de mes amies, puis j'ai fait « Là, je suis pas en état, là, vraiment pas, tu sais. » Elle était comme « T'arrives quand? » Puis ça, « Mon rendez-vous, il est à telle heure, puis là, j'ai pas mangé, puis je sais pas trop. »
C'est quoi la première question que tu lui as posée, hein?
Je me rappelle plus. Ben, tu sais, mettons, quand on s'est contacté, quand on s'est écrit, là, mettons, j'y ai demandé combien de fois t'es allé donner, tu sais, t'as fait ça combien de fois? Tu sais, c'était... Moi, c'est mon inquiétude que j'avais, c'était d'avoir un donneur en série. Là, c'est pas le cas pour moi, puis je suis vraiment contente de ça. En tout cas, il m'a dit qu'il est allé une dizaine de fois. Fait que, tu sais, considérant le taux de succès à l'époque, c'était environ 30 %, tu sais. Fait qu'on serait peut-être 3-4, là, tu sais, qui... qui viendrait de lui. Puis, tu sais, il y a aussi la fa... les chances que quelqu'un d'autre, mettons que je rencontre un demi-frère ou une demi-sœur, sont relativement faibles parce que la plupart des parents infertiles vont pas le dire à leur enfant parce qu'ils se sentent. C'est ça, ils vont se sentir un peu menacés, là, tu sais, ils vont avoir l'impression que d'avoir le donneur dans sa vie, ça risque de menacer le lien parental, alors que c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment quelque chose là, d'important à dire, je pense, aux gens, c'est que il y a pas de limite au nombre de personnes qu'un enfant ou un adulte plus tard va pouvoir aimer puis avoir dans sa vie. Puis tu sais, si tu es le parent de cet enfant-là, il va pas, c'est pas parce qu'il va découvrir comme une autre personne avec qui il est lié génétiquement qu'il va te mettre de côté. Là.
Andréane, je rentre un peu dans ton intimité, puis tu as le droit de refuser en passant là, de répondre, mais est-ce que c'est devenu la quête un peu de tes parents à travers la tienne aussi?
Bien, eux autres n'avaient pas l'intention de trouver le donneur. Là. Je pense que c'était pas quelque chose d'important pour eux autres. T'sais. Ils ont eu un enfant, puis tout ça. Puis je pense que même, je pense que mes parents ne savent pas à quel point c'est. Je pense qu'ils ne sont pas capables de mesurer à quel point c'est important pour moi. Mm-hmm. C'est clair que je suis pleinement leur fille. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais cette information-là, pour moi, est importante. Puis je trouve ça aussi vraiment, vraiment le fun de pouvoir créer un lien avec cette personne-là. Parce qu'il y a vraiment plein de choses que je partage avec lui qu'on ne se créerait pas que c'est génétique, t'sais, mais... tu sais, des façons de penser, des goûts, tu sais, des goûts musicaux, c'est quelque chose des fois que, tu sais, ça se discute comme pas, mais on dirait que, tu sais, on aime plus le même genre de musique, ouais. On va rire des mêmes jokes.
C'est là de génération en génération un peu. Ils disent que l'ADN est fort aussi, hein?
Oui, c'est ça. Tu sais, on pense souvent, tu sais, quand on cherche un donneur, ben, ah, je voudrais qu'il me ressemble un peu, qu'il ait, mettons, la même couleur de yeux, même couleur de cheveux. Mais, tu sais, il y a beaucoup plus que juste une couleur de yeux puis une couleur de cheveux dans l'ADN. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont comme intérieures. Juste la façon que ton cerveau est comme branché, là, ça fait une différence. Puis, tu sais, de rencontrer quelqu'un comme ça, c'est, tu sais, auquel t'as pas accès, c'est vraiment, c'est haut en émotion. Là.
Peux-tu nous parler de tout ce qui est de la quête que tu as eue envers le gouvernement, je vais le dire comme ça, tu sais, tu as fait des démarches quand même pour que l'anonymat soit soulevé. Peux-tu nous dire où est-ce qu'on est rendu? Parce que je vais t'avouer, là, je connais pas grand-chose là, quand on parle de ce sujet-là. Tu as parlé d'entrée de jeu tantôt, tu sais, qu'il y avait des lois là, qui s'en venaient, qui allaient tomber. Oui. C'est rendu où, ça, là? Là?
C'est ça. C'est un peu compliqué parce que c'est comme l'enjeu de la procréation assistée, là, ça touche à la fois au droit de la famille puis à la fois, dans le fond, à la santé. Fait que, puis il y a aussi, c'est un enjeu politique assez complexe. Là. Quand je me suis embarquée là-dedans, je ne pensais pas ça. Mais je me suis rendu compte que, tu sais, il y a des luttes de pouvoir provincial, fédéral là-dedans. Fait que, tu sais, comme il y a des gains qui se font. Puis en même temps, ben, tu sais, il y a toujours la possibilité encore d'utiliser des donneurs anonymes via, par exemple, les banques de sperme états-uniennes, via le don privé. Fait que, tu sais, mais normalement, là, ce qui est arrivé, ce que moi, j'ai, dans le fond, les dernières fois que je suis allée, que je me suis impliquée de ce côté-là, il y a eu comme une réforme du droit de la famille qui a été entamée au Québec. Puis, on a comme modernisé là, les lois en matière de procréation assistée. Ça fait que désormais, là, à partir de 2025, les enfants qui vont être conçus, théoriquement, les enfants qui vont être conçus au Québec vont l'être via des donneurs qui ne seront pas anonymes pour l'enfant. Par contre, le donneur va avoir le droit de mettre un veto de contact. Le nom du donneur va pouvoir être révélé à l'enfant avant 14 ans avec l'accord de ses parents. Puis après 14 ans, de son propre chef, il va pouvoir faire la demande pour avoir l'information. Puis le nom va pouvoir être communiqué. Les informations médicales vont pouvoir être transmises. Même s'il n'y a pas de contact, ça peut être fait via le médecin du donneur là, qui va transmettre les informations importantes.
C'est une belle avancée quand même. Là.
C'est une très belle avancée. Là. Cependant, t'sais, moi, j'aimerais ça que ce soit rétroactif. Puis, j'ai pas de problème avec le veto de contact non plus. T'sais, si un donneur n'a pas envie de s'impliquer dans la vie de ses descendants, moi, ça me va. Mais je trouve que c'est important qu'on sache c'est qui. Justement pour des raisons d'inceste accidentel, là, le risque de rencontrer quelqu'un, étant donné que les cohortes ne sont pas toujours celles qu'on croit être. Fait que ça, c'est comme important. Les antécédents médicaux, etc. T'sais, fait que je trouve que c'est important que l'information soit transmise. Puis, c'est ça que la loi là, vient dire, là, que l'information peut être transmise. Mais par contre, après ça, entre deux adultes consentants, ou même entre un adulte et un adolescent, de juste avoir un contact, de pouvoir savoir qui on est, c'est cool.
Dans le fond, je regardais ce que le professeur en droit de l'Université de Montréal a mentionné dans l'article de Radio-Canada. Il dit « Maintenant, l'enfant va avoir le droit de connaître son origine, mais le donneur, lui, aura le droit à sa quiétude. »
C'est bien dit.
C'est ça.
La dernière question que j'ai pour toi, Andréanne, c'est est-ce que les donneurs ont des droits par rapport à leurs... Là, je mets des guillemets, par rapport à leurs enfants?
Ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire comme des droits. Tu sais, moi, mon donneur, il va jamais rien dire par rapport à ma vie. Tu sais, il y a pas de... Il y a aucun droit. Là, pis... Non. Puis, tu sais, ça fait longtemps que c'est dans la loi. Tu sais, les gens pensaient que l'anonymat, ça prévenait le fait qu'un donneur veuille entrer dans la vie d'un enfant, qu'il se fasse demander une pension alimentaire. Puis ça fait très longtemps que anonymat ou pas, un donneur de sperme ne peut pas se faire réclamer une pension alimentaire. Un donneur de sperme ne peut pas se faire demander d'avoir la garde de l'enfant. Il ne peut pas avoir aucun droit de regard là, sur l'autorité parentale là, par rapport à l'enfant. Et ça fait même avant les réformes, là, ça fait depuis très longtemps.
J'écoute beaucoup des séries américaines puis des films américains. Et là, un moment donné, à Noël, est-ce que vous êtes toute la gang ensemble?
Non. Ben là, tu sais, ça fait juste un an là, que je le connais. Fait que, mettons, le premier Noël, de toute façon, on n'a pas pu dire on va faire quelque chose à Noël.
Parce que lui,
moi, je suis pas du genre à triper à Noël. Là.
Lui, de son bord, n'a pas eu d'enfant. Là.
Non, lui, il n'a pas eu d'enfant. Fait que, tu sais, il a des neveux-nièces, il a une famille, mais tu sais, il n'a pas d'enfant à lui. Là.
OK. Puis, fait qu'il se ramasse avec une fille, là, une fille biologique.
Oui, c'est ça. Ben, il ne m'appelle pas sa fille, puis tu sais, je ne suis pas sa fille non plus. Fait que, tu sais, on a discuté beaucoup des termes à utiliser, tu sais, parce que, tu sais, on ne veut pas heurter des sensibilités ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, il y a beaucoup de sensibilité en jeu là-dedans, tu sais. Moi, tu sais, je trouve que c'est difficile. Tu sais, on s'était entendu pour parents génétiques puis descendantes génétiques, là.
Okay.
Sauf que, mettons que je marche dans la rue avec lui puis que je rencontre quelqu'un que je connais puis que là, je fais comme « Hey, je te présente puis c'est mon quoi, tu sais. » Si je dis « C'est mon parent génétique », tu sais, les gens ont comme pas l'habitude d'entendre ça. Fait que c'est comme « Qu'est-ce que c'est? » Fait que si je dis « C'est mon père biologique », c'est comme... plus clair de qu'est-ce que c'est dans la tête des gens.
C'est toujours mieux que donneur. Là, si tu dis à ta chum de fille, voici, je te présente mon donneur, c'est assez particulier.
C'est weird.
Ouais, puis tu sais, en même temps, donneur, c'est un problème d'utiliser ça pour nous parce que, en fait, c'est le donneur de mes parents. Tu sais, il a donné à mes parents pour les aider, mais à moi, il n'a rien donné. Fait que c'est pas mon donneur, parce que ça implique une espèce de dette existentielle que j'aime pas.
C'est ça.
J'aime pas, ben. Sauf que si je dis c'est mon donneur, encore une fois, c'est plus clair pour beaucoup de gens. T'sais? Fait que je l'utilise quand même. T'sais, à un moment donné, je me dis que le problème par rapport au terme, c'est plus une question d'acceptabilité sociale de ce type de relation-là. Puis plus que ça va aller, plus que ça va être acceptable d'avoir cette relation-là. Puis à partir du moment où ça devient socialement acceptable, je pense que la question des termes devient vraiment secondaire.
Andréanne Letendre, merci d'avoir pris le temps ce matin. Honnêtement, il y a des gens qui se sont reconnus un peu dans ton histoire. Je trouve ça super intéressant. Moi, c'est quelque chose qui est tellement loin de moi que j'étais un peu fascinée aussi par les démarches, disons-le comme ça, qui suivent ce genre de situation-là. Andréanne Letendre, qui est enfant de la procréation assistée, ça sonne très sérieux comme ça, mais elle a fait des grandes démarches pour retrouver ses origines grâce à l'ADN. Je te souhaite une belle journée, puis merci d'avoir pris le temps encore.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Merci, Andréanne. Quelle histoire!
Hey, moi, je trouve ça capoté.
Oui,
vraiment. Puis c'est vrai qu'elle a dit quelque chose là, dans toute cette entrevue-là, moi, qui a vraiment retenu mon attention. C'est vrai qu'on a une tendance à être plus, je veux dire, à l'écoute des gens qui sont adoptés, qui veulent retrouver un parent biologique, comme si ça avait plus de valeur, je sais pas, tu sais. Et pourtant, fait que je trouve ça le fun de savoir qu'en 2025, on va être ailleurs, puis que, bref, les origines du donneur vont être publiques pour l'enfant, là.
C'est des beaux combats, puis dans son cas, elle a gagné son combat, puis elle a rencontré quelqu'un de formidable qui l'a aidé à venir au monde.
Hey, la force de l'ADN aussi.
Puis elle a ses
aussi,
parents
hein?
qui l'aiment beaucoup. La force de l'ADN, oui.
C'est capoté.
On s'en parlait, c'était avec toi qu'on parlait
oui,
de ça
cette semaine, oui.
Les peurs peuvent se transmettre, les goûts pour la musique, comme elle l'a mentionné, ça peut se transmettre. Tu as l'impression que, en tant que parent, okay, avec tes gars, moi j'essaie de leur mettre dans la tête de la musique des années 60, 70, 80, mais ça veut pas dire que ça va être ça. Là.
Mais non.
J'essaie de leur mettre dans la tête en me disant ben c'est ce que je leur ai fait écouter quand ils étaient jeunes qui fait en sorte que ça va développer leurs goûts musicaux plus tard, mais ça n'a
Ça veut pas dire non
plus. Si on en croit l'ADN, c'est directement dans le sang.
Ouais. Ah non, c'est complètement débile. Puis je la sens complète aujourd'hui. C'est ce que je trouve le fun. Ouais, ça répond à mille une questions, mine de rien.
Elle a un beau sourire. 10h58, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. On s'arrête, on vient. Madame Pinchot, on résume comment la météo aujourd'hui?
Mon doux, je la résume plus plate.
Baby,
plus
it's cold
vieuse,
outside.
Difficile. Mais il y a un réconfort si vous décidez d'en créer un avec des journées comme celle-là.
Il y a un réconfort.
Oui, faut que tu vois le beau dans la vie. Hein.
Tu vas prendre un petit café aux épices là, qui coûte 28$
chez
Starbucks.
Pas, je ne comprends pas. Non, mais le spooch qui goûte la citrouille te coûte comme 4$ de plus dans ton café. Je ne comprends pas. C'est tellement cher, là.
Ouais. Il y a beaucoup de clients de Starbucks qui me disent régulièrement, il semble que j'ai jamais une scène dans mes poches.
Mais je sais pas. On voit, hein, regardons tes dépenses.
Mais, tu y vas 2-3 fois par jour, c'est
Je vais vous donner un truc qui coûte vraiment pas cher, OK? Il y a des boîtes de thé à l'épicerie qui coûtent 3$, là, si tu prends la marque maison, là, à peu près 1,5$, là. Puis là, si tu mets ça dans ton café, puis ça va te donner le goût d'épices d'automne que tu recherches.
OK, mais là, t'as un turbo de caféine, là, parce que t'as de la théide là-dedans.
Absolument. T'as un turbo de caféine. Mais la majorité des gens prennent plus qu'un café par jour. Fait que je me dis, regarde.
Ouais, c'est ça. C'est juste que tu t'en vas travailler en courant. Hey, pour aujourd'hui, c'est de la pluie, même risque d'orage cet après-midi sur l'Environnement Canada, entre 15 et 25 mm annoncés, maximum de 16. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, des averses qui devraient cesser pendant la soirée, minimum de 11 degrés. Demain, vendredi, une alternance de soleil-nuage avec un max de 20. Samedi, dimanche, ça va être les dernières journées pour faire de la moto là, confortablement habillé. Sinon, après ça, c'est la soute de skidoo. Maximum de 19 pour samedi, plein soleil. Dimanche, plein soleil, maximum de 21 degrés. On vous invite au rempart! On vous parle des remparts de Québec parce qu'avec les remparts, on a une belle promotion sur les ondes de boulevard 102.1. Puis peut-être parler aussi du Rougéard parce qu'il se passe de quoi en fin de semaine avec le Rougéard. Les remparts de Québec qui sont de retour au Centre Vidéotron pour la nouvelle saison. On avait hâte que ça commence. Puis avec la gang de boulevard, on vous offre le kit fan numéro 1 qui comprend les casquettes, les mains mousses, les sacs de sport, cordons et rondelles. Voilà. Donc ça inclut 32 matchs à domicile, même pour les sièges. Vous seront réservés aussi en cas de présence en série éliminatoire. Donc, c'est un super de beau kit. Et il va y avoir aussi le populaire match boulevard qui a bien été apprécié. Ça fait 2-3 ans en ligne qu'on le fait, puis les gens adorent. Pour courir la chance de gagner ce kit-là de fans numéro 1, ben, vous avez juste à aller inscrire le score fictif du jour. Je vous le donne à l'instant. Envoyez-moi pas ça par texto. Il faut vraiment aller sur le site web de boulevard, blvd.fm. Vous tapez le score du jour, c'est 5-5 contre les Moosehead d'Halifax. Donc, 5-5 contre les Moosehead d'Halifax. Et le gagnant va être annoncé dans l'émission Gravel dans le retour ce vendredi. Bonne chance!
Tu parlais du Rougéard. On a un tailgate dimanche parce que le Rougéard affronte les Stingers de l'Université Concordia au Stade TELUS, évidemment. Ça se passe, c'est à 13h le match. Fait que dites-vous qu'aux alentours de 9h30, commence à y avoir du monde en petit pépère au tailgate. Et on va être là, encore une fois, ce dimanche, avec des cartes cadeaux Laurier Québec, des items, évidemment, à l'image de la station, mais les fameux Pogo Max, j'y serai aussi. Yann va y être de pensée comme tous les dimanches. Et cette année, ben, Laurier Québec embarque encore avec nous autres, ce qui fait que vous avez la possibilité de gagner une carte cadeau de 1000$. Fait que quand vous venez nous voir au tailgate les dimanches, vous demandez l'indice. Puis vous allez voir, après, c'est super simple. On vous le demande en ondes la semaine suivante, tout simplement. Si vous voulez des billets pour le Rougéard, ben, c'est rougéard.ulaval.ca. Puis on se voit au tailgate dimanche.
Chris qui dit « Salut Audrey, tu devrais faire comme ma blonde. Elle achète un espèce de petit lait aux épices d'automne à l'épicerie, beaucoup moins cher qu'un Starbucks. Jean-Marie qui dit « Salut la gang, dans la recette à Audrey, c'est-à-dire de mettre un peu de thé épicé dans le café, il vous reste juste à remplacer l'eau par du Red Bull, puis vous avez plus besoin de char. »
Rendu là, hein? Moi, je suis plus une fille de chai latte l'automne.
Tu vas sortir de chez vous comme Forrest Gump.
Ouais, le feu derrière, la journée perdue. Hey, vous êtes dans l'open mic, quoi que ce soit, 88-971-1021, on revient.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
11h14, c'est finalement fait. J'ai mon nom de lutteur pour mon combat de demain soir contre Gros Goré alias Steven Sullivan.
Essaye-le, là.
C'est Marceau Polo.
Vas-y, essaye-le.
Ben, Marceau.
Polo!
Ouais, là.
Ça va être le fun.
Ouais, plus de 340 billets vendus jusqu'à maintenant. On espère monter ça jusqu'à 400, 450, 500. Je vous rappelle que chaque dollar de vos billets que vous allez acheter, autour de 20 $, Ça va directement à la bouchée généreuse. Il n'y a personne qui se fait une scène avec ça. On fait ça pour faire plaisir au monde puis en plus nourrir les gens de chez nous. Donc, Centre Horizon, 20h. Pour ceux qui ne sont pas habitués d'acheter les billets sur Internet, vous allez pouvoir vous présenter au Centre Horizon à 20h, puis vous allez pouvoir payer à la porte.
Oui, puis si jamais vous cherchez le lien, vous n'êtes pas bon là-dedans, là, moi, je suis de même, là, écrivez-moi au 971-101, je vais vous envoyer le lien directement. Sinon, dans les stories de la page Instagram de Boulevard, on l'a mis directement, le lien, fait que c'est facile d'aller acheter le lien.
Exact, donc 7 combats de lutte professionnelle plus le massacre de fin de soirée. C'est gros gorille qui va se faire massacrer. Il va y avoir un band rock qui va être sur place. C'est le band de la station. C'est Big Muff qui est là. Vous allez avoir de la maudite bonne musique. Puis il va y avoir un service de bar. Plus tout le personnel de la station qui va être présent.
Je sais que toi et gros gorille, comme tu l'appelles, n'êtes pas super proche en ce moment. Là, mais il vient de m'écrire qu'on était rendu à 388 billets précisément.
Good fait job.
Qu'on approche franchement le 400.
Oui.
C'est hot.
L'idéal, ce qu'on veut, c'est remettre un chèque de 10 000 dans nos rêves. Ouais. Là, en fait, dans mon rêve, c'était 1 000. Mais là, Gros Gorille, il a des rêves encore plus grands que moi. Il est plus gros. Donc, lui, il veut donner un chèque de 10 000 puis j'embarque là-dedans avec. Ça va être vraiment le fun. Merci
vraiment.
Beaucoup aux gens de la NSPW, de Matériaux Audet, d'embarquer dans notre gros délire. 11h15, j'ai l'impression que ce sujet-là, j'ose espérer qu'on n'en parlera plus dans 5 ans parce que ça va être réglé. Mais on parle de ça depuis des années. La pénurie de places en garderie, les CPE qui seraient mal subventionnés aussi en raison du fait qu'il manque beaucoup d'argent. Puis, ben, on parle encore de ça ce matin avec Marilyn Dion qui est en studio, qui est la directrice générale de l'organisme Ma Place au Travail. Bonjour, comment allez-vous, Mme Dion? Merci d'être là.
Bonjour, ça va bien, merci de l'invitation.
Ça va très bien. Parlez-moi de l'organisme Ma Place au Travail. Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, bien en fait, l'organisme Ma Place au Travail, ça a commencé par un mouvement citoyen. En 2021, c'est une maman de Rivière-du-Loup qui faisait ses études en psychologie, qui travaillait déjà auprès de jeunes. Puis quand elle a eu son bébé, ben comme tout le monde, elle s'est inscrite à la place 05. En fait, dès qu'elle a su qu'elle attendait un enfant.
Ouais.
Puis là, ben les mois ont passé, puis elle a commencé à s'inquiéter du fait qu'elle ne recevait pas d'appels, multiplier les appels, les courriels. On sait comment ça se passe, hein, tous ceux qui ont vécu cette expérience-là.
Moi, ça a pris 5 ans. Pour mon premier bébé qui n'a pas existé finalement parce qu'il y a eu une fausse couche, ils m'ont appelé 5 ans plus tard pour me dire que j'avais une place en garderie.
C'est ça. Puis c'est encore pratique quand ton enfant a 5 ans. C'est ça qui est le fun. Il n'est pas rendu pantoute à l'école.
Mais là, il n'existait pas, cet enfant-là. Ils m'ont appelé 5 ans plus tard.
Wow, ben c'est ça. En fait, c'est le parcours là, qu'elle a vécu que tant de parents vivent. Mais là, elle se disait, ben là, moi, j'ai besoin de retourner travailler. Je veux ma place au travail, qui est un petit peu aussi un clin d'œil à la place 05, qui est ce guichet unique où on s'inscrit, en fait, lorsqu'on sait qu'on attend un enfant.
Ouais.
Et ça a été un mot-clic sur les réseaux sociaux. Et rapidement, ça a trouvé écho auprès de milliers de parents qui vivaient la même situation, qui l'avaient vécu et qui racontaient leurs histoires. Puis, ben de fil en aiguille, ce mouvement citoyen a pris de l'ampleur. Est devenu un OBNL. Et puis là, ben, ça va faire 4 ans qu'on existe comme organisme. Puis c'est encore aussi pertinent, malheureusement. On se disait tout le temps, on espère qu'on n'existera plus l'année prochaine, mais force est de constater qu'on est aussi pertinent qu'au jour 1. Là.
C'est une question vraiment plate, là, mais avez-vous le sentiment que votre projet, je vais l'appeler comme ça, fait avancer les choses?
Oui, parce que c'est une manière de mettre en lumière dans l'espace public les différentes conséquences que vivent les parents par rapport à la pénurie. Donc, des conséquences professionnelles, des conséquences financières, des conséquences psychologiques. Puis, il n'y a pas juste le fait qu'il manque de place comme tel, ce qui est déjà un gros problème en soi. Là, on parle en ce moment de plus de 34 000 enfants qui sont en attente d'une place.
À Québec, c'est autour de 5 000?
À peu près, exactement. Donc, c'est énorme à l'ensemble de la province. Puis après ça, bien, il y a plein d'autres problèmes aussi. Il y a le fait que bien, il y a des places qui sont non subventionnées, donc on doit payer très cher pour notre place chaque jour, ce qui est une inégalité par rapport aux services publics, par exemple, avec une place subventionnée.
Ouais.
Il y a des enjeux de qualité, il y a des enjeux du fait que bon, les enfants qui ont besoin de soutien particulier ont encore plus de difficultés à se trouver une place. Donc, tous ces enjeux-là, bien qu'ils soient connus par les parents qui les vivent ou qui l'ont déjà vécu, bien, c'est important de les mettre de l'avant pour trouver des solutions puis faire pression aussi pour que ça bouge, ce dossier-là.
Tu sais, le gouvernement en parle, veut pas, de cette problématique-là. On ne sait jamais si les choses changent vraiment ou bougent un peu dans un bon sens. Est-ce qu'en toute franchise, le nombre d'enfants sans garderie continue d'augmenter de façon flagrante ou vous sentez que ça se stabilise un peu quand même? Là?
Bien, en fait, c'est que ça descend pas, la liste d'attente. C'est ça qui est problématique, là. C'est que, tu sais, par exemple, depuis 2 ans, bien, on est au-dessus de 30 000, plus ou moins. Ça peut baisser à 29 000, ça peut remonter à 35 000. On va rester dans ces eaux-là. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de places qui sont créées, hein, faut le dire, là. Il y a des places qui sont créées, beaucoup de places, depuis le grand chantier pour les familles, là, qui est un petit peu le plan d'action du ministère de la Famille pour se dire on va venir à bout de cette pénurie-là. Il y a beaucoup de places qui ont été créées. Je pense que c'est au-dessus de 25 000 places. Mais malgré tout, de par le fait que, ben, il y a des fermetures dans d'autres milieux, il y a de la pénurie de personnel qualifié pour s'occuper de nos tout-petits, ben, ça fait en sorte que la liste d'attente, elle, elle ne bouge pas. Puis au final, ben, c'est cet indicateur-là que les familles prennent en considération. Là, est-ce que tout le monde a une place ou non? Puis force est de constater que malgré toutes les initiatives qui sont mises de l'avant, ben, cette liste-là, elle ne bouge pas pratiquement. Là.
C'était-tu une bonne chose de partir les CPE? Parce que moi, je fais partie d'une génération où ça n'existait pas, puis on se faisait garder à gauche milieu puis familial. À droite. C'était dans les milieux familiaux. Bon, il y avait de l'argent au noir, mais en même temps, les gens qui bénéficiaient de ça, c'était des gens qui redépensaient dans la communauté, bien entendu. Puis après ça, le gouvernement a dit non, on va se mêler de ça. Puis on dirait que c'était... Bon, je sais que c'est un hasard, mais on dirait que c'est à partir du moment où le gouvernement a décidé de se mêler de ça que les gens ont commencé à se dire, OK, mais là, mais faut, ça, mon enfant, faut qu'il aille à la garderie, moi, faut que je retourne au travail. Ça serait quoi l'idéal pour toi, Marilyn? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour justement que tous les parents puissent avoir une place pour leur enfant dans les CPE?
Bien, c'est ça. Premièrement, les centres de la petite enfance, je pense que c'est un joyau pour notre société parce que c'est un grand legs, en fait, puis ça fait l'envie même de plusieurs sociétés à travers la planète, là. Ces centres de la petite enfance qui sont un peu comme le village. Comment ils ont été imaginés, finalement, je ferai une métaphore du village que tous les parents ont besoin. Tu sais, quand on dit ça prend un village pour élever un enfant, là, bien, les centres de la petite enfance sont des milieux où on va avoir des éducatrices qui sont formées, qui vont accompagner nos enfants. T'sais, on est vraiment loin du gardiennage. Là, t'sais. Puis ça, c'est pour tous les milieux de garde actuellement.
Mais ça a fait une
là.
Belle génération quand même quand on n'avait pas de gardienne formée, non?
Bien, je veux dire, évidemment, c'est la richesse du réseau. Puis je veux dire, l'important, c'est que les familles aient le choix d'aller dans les milieux de garde qui leur conviennent
les
le mieux.
Les enfants sont plus stimulés dans un milieu où les éducatrices sont formées.
Bien, en fait, t'sais, puis maintenant, dans les milieux familiaux également, il y a un programme éducatif. Je veux dire, dans l'ensemble des milieux de garde, il y a un programme éducatif parce que c'est de l'éducation, en fait, la petite enfance. Puis c'est ce que les études nous démontrent fois après fois, c'est qu'entre 0 et 5 ans, là, c'est là qu'il y a la majorité des connexions qui se font au niveau du cerveau. Les apprentissages qu'on fait dans notre période 0-5 ans vont avoir...
Les enfants sont des éponges,
là. Oui, puis ça va avoir une influence sur l'ensemble du parcours scolaire. Donc, les centres de la petite enfance, c'est aussi, pour revenir à ce sujet-là, là, c'est aussi ce qui a été démontré de par des études comme étant un modèle en termes de qualité éducative qui est vraiment intéressant et significatif. Puis ça amène l'égalité des chances pour nos tout-petits.
Tu sais, avec ma place au travail, bon, vous travaillez justement pour essayer d'aider puis de regrouper les parents puis de trouver des solutions. Est-ce qu'on a la bonne façon de faire pour obtenir une place en garderie au Québec? Ma réponse à deux scènes est non, mais est-ce que vous observez qu'il se fait mieux ailleurs? Y a-t-il un modèle à suivre peut-être sur lequel on pourrait se calquer éventuellement?
Bien, il y a différents pays où, justement, l'éducation, le fait qu'on soit dans la période 0-5 ans, ça fait partie prenante de l'éducation. Donc, on met des investissements comme gouvernement qui sont significatifs parce qu'on sait que ça a une influence sur l'ensemble du parcours scolaire et sur l'éducation. Tu sais, si je vais un petit peu dans la théorie, là, il y a un consensus économique qui nous dit qu'il y a des retombées très importantes pour l'ensemble de la société quand on investit en petite enfance. On sait qu'un dollar en petite enfance investi peut rapporter jusqu'à 6 $ pour la société. Donc, il y a des endroits dans le monde qui ont fait en sorte que, ben justement, c'est une partie prenante de l'éducation. Donc, on met les montants qui sont suffisants. Et ici, au Québec, ben bien sûr, on a justement ces centres de la petite enfance qui font notre fierté puis qui sont importants. Mais étant donné que ça ne fait pas partie de l'éducation, disons, hein, on est dans deux ministères différents, on a l'impression du moins que les investissements puis les énergies ne sont pas à la hauteur de ce que ça pourrait rapporter. Mais quand ça rapporte autant puis qu'on veut mettre autant d'investissements dans notre petite enfance, bien, c'est d'avoir une vision long terme. Tu sais, c'est pas demain matin que ça va rapporter.
Mais ça, notre gouvernement n'est pas très, très fort en frais de vision en général, tout combat confondu. On parle des CPE, parlons des déficits parce qu'il y a plusieurs textes qui sont sortis là-dessus dans les dernières semaines. Le manque de financement des CPE qui entraîne des conséquences quand même assez inquiétantes. C'est quoi ces conséquences directes-là?
Bien, c'est sûr que les directions de Centre de la petite enfance doivent faire des pieds et des mains pour essayer d'arriver, là, mais il y a des conséquences qui sont multiples là, au niveau de, ben justement, la gestion du personnel, les infrastructures. Puis là, nous, ce qu'on trouve inquiétant du point de vue des parents, c'est que, tu sais, quand on a très, très peu de moyens parce qu'on n'a pas assez de financement, puis on essaie de boucler les fins de mois, puis il faut couper dans le peu de gras qui reste, si on veut, bien, tu sais, on va couper, par exemple, je sais pas, dans des formations pour les éducatrices ou dans du matériel pédagogique. Puis là, c'est là que... Puis évidemment, je pense que c'est le dernier endroit où les directions veulent couper, puis c'est vraiment quand ils n'ont plus le choix qu'ils doivent le faire. Mais là, on constate qu'il y a tellement de pourcentages qui sont en déficit que là, bien, ça vient influencer, évidemment, ces coupes-là, bien, une qualité éducative. Puis c'est là que ça devient inquiétant là, pour les parents, puis pour les familles, puis pour tout le monde, finalement.
Oui, c'est drôle parce qu'Audrey m'a fourni un document, puis j'ai eu ce commentaire-là il y a deux semaines d'un parent qui embarquait justement dans le fait que c'était la recherche d'une garderie, d'une place pour son enfant. Puis il a dit, j'ai l'impression que je participe à une loterie.
Exact.
Puis dans votre document, je pense que c'est une loterie des garderies aussi. Puis les gens sont un peu tannés de ça.
Quand les gens nous disent, « Hey, moi, j'ai trouvé une place qui est proche de chez moi, qui est merveilleuse en termes de qualité. On aime notre éducatrice. Elle est subventionnée. J'ai vraiment gagné à la loterie. Mm-hmm. » Mais tu sais, quand on se dit ça, c'est est-ce que ça devrait être... C'est ça. Est-ce que ça devrait être une loterie, en fait? Tu sais, on dirait jamais ça pour, je sais pas, moi... déménager dans un nouveau quartier, par exemple, puis là, notre enfant a 6 ans, 7 ans, puis on se fait dire, « Ah, ben désolé, il ne pourra pas aller à l'école. Mettez-vous sur une liste d'attente. »
Marilyn Dion, en passant, qui est DG de l'organisme à place au travail, mettons, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est quoi là, vos actions pour essayer d'aider là, en frais de cette problématique-là, finalement?
Oui, on en a beaucoup, finalement. Là, on n'arrête pas de trouver différents angles pour parler de ces enjeux-là. Hier, par exemple, on était en conférence de presse avec le Parti libéral du Québec qui a demandé un mandat d'initiative pour se pencher sur l'accès aux services de garde pour les enfants qui ont besoin de soutien particulier. Mm-hmm. Si je résume, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là, c'est que les familles d'enfants à besoins particuliers là, se heurtent à des portes closes sans cesse. Là,
quelqu'un qui a un enfant qui est atteint du TSA... c'est difficile de trouver une garderie aujourd'hui.
C'est plus difficile, notamment parce que l'aide à l'intégration en service de garde, qui est un montant qui est offert aux garderies pour aider la garderie à par exemple, avoir du personnel ou du matériel qui est adapté, bien, c'est seulement pour les garderies qui sont subventionnées. Donc, déjà, si, par exemple, moi, je suis sur la place 05, j'ai un enfant à besoin particulier et j'ai un appel d'une garderie qui est non subventionnée, bien, ça se peut qu'ils me disent, bien, je ne peux pas accueillir ton enfant parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Donc, il y a toutes sortes de problématiques par rapport à cet accès-là. Et ce qu'un mandat d'initiative va venir faire, c'est de demander au gouvernement, pouvez-vous faire une commission parlementaire non partisane? Tout le monde, on s'assoit, on écoute des experts, on écoute des parents, puis on essaie de trouver des solutions. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait hier. On va refaire d'autres évidemment, actions, que ce soit... avec différents partis politiques, que ce soit des mobilisations citoyennes. Hein. On invite souvent les mamans à nous rejoindre les jeudis poussettes à l'Assemblée nationale. Donc, on amène les parents qui n'ont pas de place en garderie, viennent nous rejoindre avec leurs enfants. On assiste à la période de questions dans le Salon Rouge. On entend les bébés babiller pendant le silence des élus. Puis c'est une façon de montrer qu'on est là, que c'est important. Et il y a plein d'autres choses qui s'en viennent là, en termes d'action, de mobilisation.
Très intéressant. Marilyn Dion, vous êtes directrice de l'organisme Ma Place au Travail. Pour vous retrouver sur les réseaux sociaux ou encore sur Internet, maplaceautravail.org. C'est bien ça?
Exactement.
Un gros merci d'être passé. Puis bonne chance pour la suite. Puis salutations aux parents qui se heurtent constamment à des endroits où ils peuvent mettre leurs enfants. Ça doit être terrible. Puis encore une chance qu'il y ait des organismes comme le vôtre pour les aider. 11h28. Audrey, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute tantôt avec Denis.
Oui, absolument. On se retrouve demain, nous autres.
Salut!
Salut, bye.
Ton entreprise a besoin de faire l'acquisition de vie.